Alien et les garçons, épisode 31. Bienvenue dans Toi, mon meilleur.
Bonjour et bienvenue à bord d'Alien et les garçons, épisode 31.
Bienvenue.
Bonjour.
C'était l'intro, ça ? J'étais pas sûr du coup. C'était l'intro. Parce que d'habitude, je vous dis bonjour, ou bonjour tout le monde, et là, ça vous a troublé. Et vous avez regardé.
On aurait dit presque une question comme si tu testais ton micro ou genre de
choses.
Bonjour.
Tout est normal, on a commencé. Bonjour Florian.
Bonjour, j'ai tapé dans la table, ça a pas dû s'entendre, je sais pas.
Bonjour Vic.
J'ai pas tapé dans la table, ça a dû s'entendre.
Panique pas. On dirait que c'était la première fois, c'était l'épisode 31.
Oui, Florian. T'as les mains dans tes poches.
Oui, je sais pas pourquoi je me sens.
Il a les mains dans sa doudoune sans manche.
Oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est pour vous.
Nos auditeurs les plus fidèles savent pourquoi on mentionne ceci.
C'est vrai.
Bonjour Vic, tu m'as pas répondu.
Mais c'est parce que j'avais pas envie de te répondre.
Ok, très bien, voilà. On est en froid. Comment ça va alors vous ?
Ça va.
Donc Florian est pas bien.
Non, je suis pas mal, mais c'est juste que je suis pas au top.
Moi, j'ai fait un peu de PNL,
j'ai fait
un peu de lecture du langage, tout ça, des lectures du corps,
un peu de rap.
Et j'ai fait un peu de rap, et non, pas cette vanne. Et je lis ton langage corporel, dit je suis pas bien, je suis mal dans ma peau.
Donnez-moi des
qu'est-ce qui m'arrive.
Non, mais je suis assez d'accord, même tu vois pas ses pieds, mais il a les pieds levés comme ça. Là,
ouais, je manspread de ouf aussi. J'ai besoin de. Je manspread.
Ah, tu manspread de ouf. C'est vrai que tu manspread quasi comme Jean-Claude Van Damme. Tu manspread en grand écart.
C'est vrai. Bien. Alors, on a un thème aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Super-héros qui nous a été donné par Emeric. Merci Emeric.
Merci Emeric.
Merci Emeric.
Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, le thème super-héros, Florian ?
Alors, moi, c'est là où on décrit l'épisode, c'est ça. Hein.
C'est que enfin, ce que tu as écrit, chronique, ouais, qu'est-ce que ça t'a inspiré. Alors, moi, je peux juste répondre à ma question.
J'ai écrit l'histoire d'un homme banal qui va devenir un héros.
Un héros de l'ordinaire ?
Un héros du quotidien.
Exactement.
Très bien. Et toi, Vic, qu'est-ce que ça t'a inspiré ?
Moi, ma chronique s'appelle Tiffany plus Aaron égale amour.
Et, c'est mignon.
Et c'est une histoire dans laquelle vont se dérouler plusieurs scènes dont certaines ne seront pas forcément à mettre entre toutes les
oreilles.
Est-ce que
c'est la première chronique érotique d'Alien et les garçons ?
Oh non, mais quand même, qui oserait faire une chronique érotique ? Okay, je veux dire, on est quand même
non,
pas
allé. Il a fait une chronique érotique.
C'est ce qu'il nous fallait pour faire péter les écoutes, c'était du cul.
Mais on a déjà fait une chronique
cul, je ne crois
plus,
pas.
Si, plus ou moins, où on était en couple d'ailleurs, Thomas.
C'était
gentil, ça.
C'était la Playa Punto
de Lobos. Épisode 2, si je me souviens bien.
C'est possible.
Vous
me demandez pas de quoi ça va parler ?
Oui, pardon. Bah, en fait, on se laisse tellement guider par ton hosting que du coup, on oublie. Mais alors, Thomas, de quoi va nous parler ta chronique ?
Ah bah, je suis content que vous me demandiez. Alors moi, je vais vous raconter la vie de Romuald, qui est un handicapé pas comme les autres.
Ah oh là là, ça va être beau.
Du handicap et du héros.
Mais c'est peut-être...
C'est Cory, c'est ça ? Incorrigible Cory ?
Incorrigible Cory, non, c'est Corky.
Corky,
c'est pas l'incorrigible. Incorrigible Corky, tu confonds les...
Non, je confonds les deux.
Incorrigible Corky.
Mais Corky, pour moi, ça sonnait plus comme un nom de chien que comme un nom d'handicapé mental, tu vois.
Oh là là,
c'est les Corgi.
Oui, je sais, mais pour moi, ça fait
chier.
J'aime bien Corgi, un enfant pas comme les autres.
Corgi.
C'est quoi cette série ?
Alors, attendez, je voudrais vous faire un...
Toi, contrairement à Florian, où tu disais qu'au niveau de la PNL, il avait une attitude de quelqu'un qui n'était pas tout à fait à l'aise, toi, par contre, t'es bien, tu sais, tu te chilles, là, tu te mets bien, t'enlèves ta veste.
Je parce que j'ai un peu chaud. J'ai les cheveux qui me collent le visage, en fait. J'ai un peu chaud.
C'est de la moustache, Thomas.
Oui, c'est vrai. Est-ce que je peux vous faire un... Je voudrais faire une suite au point relation client qu'on a eu la dernière fois.
Tout à fait. Qui a bien marché. Hein.
Qui a bien marché. Donc en effet,
c'est un peu le SAV du coup.
C'est un peu SAV, ouais. Je voulais juste relever deux. On a reçu plein de messages sympas, merci à tous.
Oui.
Je voulais relever deux personnes qui étaient au sol.
Est-ce que tu es en train d'élire notre meilleur fan en direct ?
Non, pas du tout. Ça, on a dit qu'on ne le faisait pas. Dans mon cœur, j'en ai un. Et peut-être que si on entend, il le sait. Mais non, je voulais parler de deux autres auditeurs. Il y en a un premier. Je voulais féliciter, je voulais qu'on l'applaudisse. On applaudit rarement dans ce podcast. Qu'on applaudisse notre fan qui s'est signalé, qui nous écoute de Nouvelle-Zélande.
Bravo !
C'est quand même fou, ça. S'était dit qu'on avait vu les stats, enfin, on voit les stats, on voit qu'il y a des auditeurs de partout. On se disait, putain, c'est quand même ouf. Et en effet, l'auditeur le plus lointain qu'on ait repéré, qu'on ait observé scientifiquement, c'est donc cet auditeur néo-zélandais qui nous a contacté sur Twitter. Donc on l'embrasse.
À vue de nez, il doit faire du... C'est un backpacker.
Ouais, bah sûrement.
Il fait du couchsurfing.
Moi, j'aimerais dire deux choses. La première,
c'est un hobbit.
La première, c'est que la recherche a été quand même extrêmement rapide, parce que je crois que c'est le dernier épisode où on s'est posé la question qui était cet auditeur de Nouvelle-Zélande. Deuxième chose, j'espère qu'il ne ment pas. S'il ment, on va le retrouver, on va lui péter les jambes.
Déjà,
c'est vraiment pas sympa pour lui s'il écoute.
Il écoute, j'imagine. Bonjour.
Non, mais déjà c'était un auditeur de Thaïlande, je crois, la dernière fois. Et on avait demandé effectivement d'où vous nous écoutez,
Cambodge.
Ou Cambodge. Mais du coup, effectivement, lui, il pète le game tout de suite du plus loin.
Il est encore plus loin que le Cambodgien.
Non, mais il va être dur à battre. Hein.
Si c'est vrai et qu'il nous écoute, qu'il nous envoie
une photo.
Ses coordonnées GPS ou une photo.
Oui, voilà. Une photo, il peut envoyer une photo de.
Non, mais une photo avec coordonnées GPS.
Moi, je lui fais confiance. Écoute, auditeur, je te fais confiance à 100%. Tu n'as pas à faire ça.
Mais je trouve ça pas mal quand même.
Ou qu'il nous envoie une carte postale.
Écoute, si vous, je sais pas si. Oui, écoute, si tu écoutes, auditeur, envoie-nous une carte postale.
Il a un nom, ce petit.
Et d'ailleurs, il y a un autre auditeur, c'est lui le deuxième dont tu voulais parler.
Il s'appelle Dim.
Merci.
On l'embrasse.
C'est lui le deuxième,
alors,
le second auditeur.
Un deuxième auditeur. Là, on est en train de s'éterniser. Tu parlais de qui, toi ?
Moi, je parlais de. Il y en a un auditeur qui nous a demandé une carte postale, des stickers et une carte postale. Donc, on est assez contents.
On a l'habitude, mais le service postal, vu qu'il est très obscur, on ne sait pas trop nous-mêmes comment ça fonctionne. On a assez peu de demandes. Donc, là, on a une nouvelle demande de carte postale. On ne peut pas vous en parler à nouveau, mais ça va partir. Ça va avoir lieu.
C'est tout à fait secret, comme on vous l'expliquait.
Du coup, on arrête d'en parler.
Chut. Ah oui, c'est vrai.
Je voulais relever un deuxième fait. On a échangé pas mal avec un auditeur sur Twitter aussi qui a écrit de son côté. Vous avez relevé le truc, on était assez contents. Ouais. Qui a écrit de la fiction avec des amis, etc. Et il était intéressé par se greffer sur une de nos chroniques ou un de nos thèmes en écrivant une fiction lui-même avec ses amis. Et nous, on aime bien ça. On trouve ça top. En fait, on n'a jamais reçu de fiction. Je peux comprendre, parce que c'est assez difficile d'écrire des choses. Si vous écrivez, si toi, qui écoutes là, actuellement, tu écris des chroniques, envoie-les-nous. Même si ça ne parle pas de nous, on est contents. Il faut partager.
Même si c'est nul.
Surtout si c'est nul, ça nous donnera de la confiance.
Et c'est exactement. Moi, je me posais cette question quand on a reçu ce message. Je me suis posé cette question de se dire, est-ce que je préférais que sa chronique, si on la passe en live, soit bien et c'est cool, ça nous fait un super épisode avec une super chronique d'auditeur, ou est-ce que je préférais qu'elle soit nulle? Et la question est difficile, parce que si elle est nulle, c'est dommage, alors que si elle est bien, c'est nous qui devenons nuls.
Si elle est bien, moi je propose qu'on fasse un Koh-Lanta, qu'on fasse un conseil.
Là vous
il va nous remplacer.
Vous l'avez foutu une pression. Les gars, de base, on est allé dans le jugement de sa chronique alors qu'il ne l'a pas encore écrite. Il va écrire avec 4 ou 5 de ses amis.
Toutes les chroniques sont bien, on les aime toutes.
On les aime toutes à égalité.
Exactement.
Toi plus moi plus toutes les chroniques.
Surtout les plus belles chroniques.
Et voilà, et donc juste
de toute façon, nos chroniques, elles sont nulles aussi.
Ouais, souvent, oui. La mienne aujourd'hui, je suis un peu moins content.
Moi, mais c'est ce que tu nous disais.
Mais d'accord. Bon, en vrai, à chaque fois que je suis un peu moins content, vous me dites non, finalement, elle était pas mal en vrai. Tout.
Ah, c'est pour te
et quand je suis super
moral,
content, vous venez me voir après. Genre,
c'est du renforcement positif, c'est tout.
je vous disais ça parce que, oui, en effet, si vous écrivez, et surtout si vous écrivez à propos de, je sais pas, d'un de nos thèmes, prochain thème, ça va être jugement. Si vous écrivez jugement, ce sera jugement. Ouais.
Ah, très bien.
Et si vous écrivez à propos de jugement ou si vous écrivez la suite d'une chronique ou n'importe quoi, n'hésitez pas à nous envoyer. On vous inclura dans le podcast, on se démerdera, on vous fera un bisou. On vous enverra des stickers. On est en train de faire des marque-pages, des tout nouveaux marque-pages.
Tu dis marque-pages. Moi, ça m'a déjà choqué la première fois que tu l'as dit.
C'est parce que je parle pas bien français.
Marque-page.
Allez, on va continuer parce que là, on n'a pas le cul sorti des ronces.
Il y a aussi une auditrice qui nous a dit qu'on se professionnalisait. Je me demande d'où elle sort ça.
Elle nous l'a dit il y a littéralement 20 minutes.
Avant 20 minutes, et là je nous écoute et je me dis, mais non, je suis désolé, mais tu te trompes.
Allez, on continue.
Que tu fais, c'est quoi ça?
Je sors des cadeaux parce que vous vous rappelez que j'étais à la
Chine. Normalement, on fait ça en fin de podcast.
Vous voulez sûr que je fasse ça maintenant?
Bah oui, écoute, okay. Vas-y.
On fait ça maintenant?
Non, moi je fais ça en fin de podcast.
Tu peux juste nous montrer la forme?
Super.
Donc je vais juste sortir la tease.
Ah oui, c'est vrai que tu nous as dit que ça avait ramené.
On dirait du jean, une flasque de jean.
Laissez écouter les auditeurs.
C'est joli.
C'est l'alcool chinois dont je ne sais plus comment s'appelle, ma tendre et chère pourrait me dire. Et ça se boit à table. Normalement, c'est un truc traditionnel. Ouais. Ça se boit, c'est très bon. C'est à 50 degrés, vous allez douiller.
Hop. Ah oui, d'accord.
Je mets ça là. On va goûter ça. On va peut-être commencer. Et les cadeaux, à la fin. On verra à la fin, juste avant le quiz.
On dirait une bouteille de parfum.
Mais c'est un peu du. Tu peux te parfumer avec, mais tu vas sentir le clodo.
Tu mets des drôles de parfum quand même. Ça ressemble vraiment à une flasque quand même.
Bien, première chronique, c'est qui? C'est Florian?
C'est moi, ouais.
Allez, Florian, on attaque.
Oh là 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 là, ça sent fort.
Gunther, la naissance d'un héros.
Tous les héros ne portent pas de cape. D'ailleurs, à cette heure si matinale, Gunther ne porte rien. Il n'est que 5h32 d'un samedi matin hivernal quand il se réveille pour de bon. S'il est nu comme un ver, ce n'est pas pour profiter de la caresse d'une brise nocturne sur son corps, mais plutôt par facilité. Les trop nombreuses années sans aucune pratique sportive ont ramolli un périnée, déjà relativement flasque, et obligent l'Allemand à effectuer plusieurs arrêts pipi durant son court trajet sur l'autoroute du sommeil. La tenue d'Adam lui permet ainsi d'éviter le désagrément, d'enlever son pantalon de pyjama à chaque réveil. Lorsqu'il descend de son lit, il se gratte l'entrejambe d'un geste ample et lance un râle sonore. Au premier abord, Gunther n'a donc rien d'un héros, et encore moins de super. La seule personne ayant utilisé ce qualificatif à son propos est Greta, son premier amour, le décrivant comme un garçon super sympa. Une description au demeurant plutôt flatteuse, s'il n'était pas accompagné d'un moins glorieux, mais un peu chiant. Cette deuxième proposition étant plus communément utilisée par ses collègues que la première. Gunther travaille à la Deutsche Bank. Il n'est pas fait pour ce métier, mais il l'a choisi pour ses horaires avantageux, lui permettant d'exercer une potentielle passion dont il poursuit la recherche depuis des années. La seule occupation de ce célibataire, sans enfant, est un oiseau dénommé Biscuit, un rare spécimen de perroquet à collerette bleue d'Amazonie. Un oiseau d'une grande beauté, mais qui ne connaît qu'un seul mot.
Connard !
Un langage fleuri, hérité de sa précédente propriétaire, la vieille voisine du deuxième étage, décédée il y a moins d'un an. Jour après jour, il parle à Biscuit dans l'objectif ambitieux de lui apprendre un deuxième mot. Ce samedi matin n'échappe pas à la règle. Avant même de se servir son premier café, il se penche alors devant la cage et regarde l'animal droit dans les yeux, en lui disant lentement « Bonjour !»«
Connard !»
Ce sera pour plus tard. C'est à ce moment précis qu'un grondement sourd venu des profondeurs les plus ténébreuses se fit entendre. Un tremblement terrible s'ensuit, faisant vibrer le corps entier de Gunther. À ce bruit, l'oiseau exotique se tait et regarde d'un air apeuré son maître. Qu'est-ce que cela pourrait bien être ? Un oiseau ? Une tempête ? Ou pire, un séisme ? Non. Après une rapide analyse, il s'avère que c'est son ventre qui grogne. Gunther a faim. Le néant qui réside dans le ventre de notre bonhomme n'est alors comparable qu'au contenu de ses placards. Alors que le café est en train de chauffer sur la gazinière, Gunther dut prendre la décision de sortir de chez lui afin d'aller à la boulangerie. Selon ses calculs, il serait revenu pile poil à temps. Une décision tout à fait banale pour un homme qui l'est tout autant. Mais il ne savait pas encore à ce moment-là qu'elle changerait complètement le cours de sa vie et celle de millions de personnes. Car ce matin, en allant à la boulangerie, à 6h08 précisément, Gunther deviendrait un héros de la nation. Ni une, ni deux, le quadragénaire enfile un pantalon, un impair et ses deux plus beaux chaussons. S'il marche à bonne vitesse, personne ne remarquerait qu'il est à peine habillé. Avant de claquer la porte, il prévient Biscuit de son départ.
Connard !
Les rues sont peu animées à cette heure-ci. Seuls quelques travailleurs s'affairent au cul de leur camion à livrer des commerces qui n'ouvriront que dans quelques heures. Il y a bien, au détour d'une ruelle, un petit vieux lefto ou un vieux jeune couche-tard, mais personne qui ne puisse émettre de sérieux jugements sur l'accoutrement de Gunther. Alors il continue son aventure à marche rapide vers la boulangerie du coin de la rue. Il jette un coup d'œil à sa montre, 6h05. Il est dans les temps. Sa cafetière ne sifflera que dans 4 minutes, au bas mot. Mais une fois devant la vitrine, il fait face à un rideau baissé. Une affiche découpée soigneusement à la main lui indique que les Rothenberg sont partis en vacances. Son plan tombe à l'eau. La deuxième boulangerie la plus proche se trouve à côté du métro, c'est-à-dire à au moins 5 minutes à pied, 3 en courant. Il n'aura jamais le temps d'y aller, d'acheter un strudel et un pain de campagne, et de revenir avant que le café n'ait bouilli. Le choix est cornélien. Café ou strudel ? Strudel ou café ? Mais au même moment, la bête qui sommeille dans le ventre de Gunther se réveille à nouveau et grogne de toutes ses forces. Personne n'est présent dans la rue pour témoigner de la fureur de son estomac, mais Gunther aurait juré voir un chat au loin prendre peur et fuir dans la direction opposée. Il reprend ses esprits, mais le temps presse. Chaque seconde passée à réfléchir à moitié nu sur ce trottoir le rapproche d'un petit déjeuner raté. Il doit prendre une décision, et vite. Un filet d'air glacial profite de cet instant d'immobilité pour pénétrer sous l'imperméable de l'Allemand. La morsure du froid interrompt ses pensées et provoque chez lui une véritable poussée d'adrénaline. « Au diable !» se dit-il. « Direction la prochaine boulangerie, peu importe les conséquences. » Il remonte les manches de son imperméable et entame sa course. Devant ses yeux, les ruelles défilent à haute vitesse. Mais pour le regard des rares badauds présents, le spectacle est affligeant. Le quarantenaire a commencé à courir il n'y a que quelques secondes, mais sa respiration est déjà haletante et de grosses gouttes de sueur apparaissent sur son front. Il est 6h07 et le soleil pointe le bout de son nez au-dessus de l'horizon. Gunther interprète ce signe comme un encouragement de l'univers tout entier. Tout comme l'étoile, la ville se réveille petit à petit. Les artères se remplissent au fur et à mesure de la progression de Gunther. Il entend même le jeune vendeur de journaux qui crie déjà les nouvelles, debout sur sa cagette en bois.
« Demandez le journal !»
Cela signifie que l'arrêt du métro ne doit plus être très loin. Le poids des regards se fait sentir sur les frêles épaules du banquier désespéré qui accélère d'autant plus le pas. Mais son objectif est en vue. Au bout de la rue, la boulangerie s'habille des premiers rayons du soleil. Au même moment, un camion de déménagement arrive à destination. Il livre une cargaison complète de livres et de meubles en tout genre au docteur Mengel, habitant 2 étages au-dessus de la boulangerie. Une fois le camion complètement stoppé, les deux déménageurs sortent de la cabine et s'attelle à la tâche. Une corde est pendue de chaque côté d'une poulie, accrochée au sommet du bâtiment. Sur le plancher des vaches, le plus mince des manutentionnaires enroule une de ses extrémités autour d'un très lourd piano avant d'y faire un double nœud solide. Une fois l'instrument bien ficelé, le deuxième type, plus costaud, commence à tirer sur l'autre extrémité de la corde. À quelques mètres de là, Gunther est lancé à pleine vitesse. Plus rien n'existe autour de lui, à part la porte en verre de la boutique et son panneau indiquant « ouvert ». Il traverse la route pavée, tête baissée. Mais dans la précipitation, un chausson plus fuyard que l'autre quitte le pied de son maître pour venir se figer dans l'interstice de deux pierres. Un simple chausson dressé fièrement sur la route d'un Gunther obnubilé par la faim et qui ne regarde pas où il met les pieds. C'est tout ce qu'il fallait pour transformer cet homme banal en véritable héros. Il est 6h, 7 minutes, 58 secondes. Le temps se fige. Une chaîne d'événements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres vont s'assembler pour devenir une petite histoire. Cette petite histoire, qui, associée aux autres petites histoires, vont construire la grande. Au moment même où Gunther trébuche, la corde, qui suspend les 500 kg de bois et d'ivoire du piano à queue, se brise net. Un vélo qui passait par là roule dans une flaque d'eau, projetant son contenu sur le vendeur de journaux. Ce dernier recule alors de 5 pas et se place exactement sous la trajectoire de l'instrument de musique en proie à la gravité. Aucun des protagonistes ne remarque ce qui est en train de se passer. Le temps reprend ensuite son cours. L'équation se résout étape après étape. Gunther, lancé à pleine vitesse, s'en mêle les pinceaux. Il est ensuite projeté la tête la première en direction du jeune vendeur de journaux. La collision inévitable intervient. Il tombe 1 mètre en arrière environ, tous deux sur leur postérieur. Enfin, le piano percute violemment le sol. Dr Mengel attaque la société déménagement en justice. Elle fait faillite, mais je m'égare. Gunther, au bon endroit, au bon moment, a sauvé un enfant d'une mort certaine. Les jours qui suivent s'enchaînent à une vitesse hallucinante. Le lendemain, l'action improbable et involontaire du banquier fait la une de tous les journaux. Partout où il passe, les habitants le saluent et le félicitent. Lui qui a toujours tout fait pour passer inaperçu, apprécie étrangement cette notoriété soudaine. La rumeur enfle, parcourt les rues de Düsseldorf, passant de bouche à oreille, de salon en salon, de bar en bar. En une semaine, la légende s'épaissit et prend tellement d'ampleur qu'elle l'emporte sur la réalité. D'homme étrange à moitié nu en chaussons qui se casse la figure, il devient un super-héros qui court à la vitesse de la lumière, bravant tous les dangers pour sauver un enfant. Une plaque de marbre vient immortaliser l'événement sur le mur de la boulangerie. La femme du boulanger raconte l'affaire en détail à qui veut bien l'entendre, alors même qu'elle tournait le dos à la rue au moment où les faits se sont passés. Tout le monde ne parle plus que de ça. Gunther est invité dans toutes les réunions. Sa boîte aux lettres déborde de courriers de femmes voulant l'épouser. La semaine d'après, le maire convoque Gunther afin de lui offrir une médaille d'honneur et les clés de la ville. C'est la consécration. Mais au bout d'un mois, plus rien. L'actualité remplace le fait divers et Gunther retourne à la banalité de la vie. Il est 6h24 quand Gunther se lève. Une vraie grasse matinée pour lui. Lorsqu'il descend de son lit, il se gratte l'entrejambe d'un geste ample et lance un râle sonore. Il traverse son appartement et entre dans la cuisine d'un pas traînant. Seul Biscuit vient briser le silence qui règne dans ce lieu.
Connard !
Gunther sort un gâteau sec de manière mécanique et le tend au perroquet qui l'attrape dans la foulée. Il s'assoit ensuite à table et se verse une tasse d'un bon café fumant. Tout est revenu à la normale. Ce qui ne l'aurait guère gêné s'il n'avait pas goûté à la célébrité. Mais un an s'est écoulé. Tout ceci n'est plus qu'un vague souvenir. Alors qu'il regarde fixement le spectacle infini de la petite aiguille qui court après la grande, il repense à cette période avec nostalgie. Un claquement métallique interrompt les pensées de Gunther. C'est le facteur qui vient de glisser une carte postale à travers la boîte aux lettres de la porte d'entrée. Sans grande envie, il se lève de sa chaise et glisse sur le parquet comme un fantôme. Ça doit être une erreur. Il ne reçoit plus de courrier de fans depuis longtemps. Il parcourt la carte d'un regard distrait, puis une deuxième fois. Un sourire naît sur le visage de l'Allemand. D'abord timide, puis très franc. C'est le vendeur de journaux qui lui écrit, au dos d'un paysage bucolique de Bavière. Il lui raconte à quel point sa vie a changé depuis ce jour. À quel point le fait de passer à côté de la mort lui a ouvert les yeux sur ce qu'il voulait réellement faire. Et ce n'était certainement pas vendre des journaux pour le restant de ses jours. Peu de temps après l'incident, il a quitté Düsseldorf et pris le premier train qui croisait son chemin. Il s'est retrouvé sans s'en rendre compte à Munich, où il a commencé des études d'art grâce à ses maigres économies. Lui seul savait que Gunther n'avait rien fait de spécial pour lui sauver la vie, mais il s'en foutait et lui était éternellement reconnaissant. Il finissait la carte par un simple « Merci ». Signé Adolphe H.
Connard !
Ah bah bravo. Alors là, on vient de se faire un point Godwin, alors je m'attendais vraiment pas.
C'était tout le but.
Historique.
D'où le docteur Mengele.
D'où le docteur Mengele.
Je me disais, putain, c'est...
Mais c'est Mengele, mais je voulais pas c'est non Mengele. Plus trop...
Voilà, juste là, moi, ça m'a accroché l'oreille, je me dis, putain, qu'est-ce
qu'il fait. Oui, je t'ai vu te retourner vers moi et tout, alors.
Et alors, Florian explique aux plus jeunes de nos auditeurs qui n'ont pas connu la guerre comme nous, qui est le docteur Mengele.
Docteur Mengele, c'est le fameux docteur qui avait la dure tâche de trouver la méthode scientifique, chimique, pour tuer le plus grand nombre de personnes en un très court laps de temps.
Entre autres. Mais il a fait plein de trucs, il a fait des études sur les jumeaux et tout ça, c'était formidable. Donc du coup, il était là, mais c'était pas vraiment lui, en fait.
Non, c'était lui, mais c'était pas vraiment très intéressant, c'était juste un petit caméo, on va dire. Tu vois,
en fait, là, t'as fait un peu Seconde Guerre mondiale, The Prequel.
Exactement.
C'est un peu ça. Non,
mais surtout, ce que j'aimais bien, c'était le fait, comme d'habitude, de transformer quelqu'un de banal, d'ordinaire, en un héros. Et donc quelqu'un qu'on peut apprécier potentiellement, tu vois. Sauf que ce héros, en fait, il a sauvé la vie d'un homme tout à fait détestable. Et donc du coup, le héros,
il est pas encore détestable à ce moment-là. Il faut lui pardonner.
Non, pas encore.
Il avait valeur.
Tout ceci est faux d'ailleurs. Il n'était pas vendeur de journaux. Il n'était pas à Düsseldorf. Mais
c'est vrai. Qu'il est autrichien.
Oui, c'est pour ça quoi. Mais j'aimais bien l'idée de faire un Adolf Hitler vendeur de journaux très sympathique, très gentil, avec une petite casquette qui vendait.
Mais nous aussi, on aime bien rendre Adolf Hitler sympathique, figure-toi.
Ça fait du bien de temps en temps, tu vois. C'est un homme avant tout.
Exactement.
Et puis, on a tellement tapé sur les Allemands que ça fait un petit peu du bien d'être sympa.
C'était mon but aussi.
Moi, ce que j'ai. Pardon, Vic.
Non, je disais juste, il y a une réhabilitation d'un peuple et rien que pour ça, je salue l'effort.
J'ai un peu écrit.
Je le prends directement contre moi, ça.
C'est vrai. J'ai un peu écrit au fil de la plume, entre guillemets. J'avais juste la première phrase et après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme histoire ? Et après, je me suis dit, en fait, je vais l'appeler Gunther parce qu'effectivement, on a beaucoup tapé sur les Allemands. Et au fur et à mesure, du coup, est venue cette histoire.
Parce que moi, j'ai écrit pourquoi l'Allemagne ? Parce que honnêtement, l'histoire serait passée en France, ça aurait été quand même autrement plus sympa.
Mais c'est difficile de sauver Hitler en France.
Mais t'aurais pu sauver Jean Jaurès pour faire un lien avec l'épisode d'avant.
Ouais, non, pas du tout. Je voulais qu'il tue quelqu'un de détestable.
Mais il y en a eu quelques-uns en France aussi. Bon, pas autant détestables que genre un putain de nazi.
Je me suis demandé, est-ce que je vais vraiment mettre Adolf Hitler à la fin ?
Oui, ça fait un peu. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'acting des sound design, du perroquet, biscuit, du vent glacial, voilà,
du grognement de vent.
Vic voudrait qu'on le remarque. Voilà. C'est lui qui a fait les sound design.
Voilà. Merci beaucoup d'ailleurs.
J'aimerais qu'on le regarde.
On appelle ça de la production value, les jeunes.
Ouais. ce qui me permet de dire que du coup, j'avais le texte sous les yeux pour pouvoir les faire. Donc, je le découvre au moment où il le lit, mais donc je vois souffle de vent glacial, c'était surligné, machin, je le fais. Et du coup, à la fin, j'ai pas un moment, tu sais, mes yeux, ils ont dérivé sur le. Et le dernier mot du texte que je n'étais pas censé voir, parce que je suivais le texte du coup pour la première fois en le lisant en plus, c'est Adolf H. Mais je le savais, genre, du coup, une minute avant qu'il finisse, et je faisais Florian, t'as pas fait ça. Comment tu vas arriver à Adolf Hitler sur un pauvre gars qui. Tu es vraiment incorrigible. Hein. Après détruire la Terre, tu détruis les. Bon.
Je savais. D'ailleurs, on a eu une discussion en off avec Vic avant le podcast, et je lui ai dit. Vous n'allez pas aimer ma chronique. Il m'a dit, tu détruis la Terre. J'ai fait, non, pire que ça.
Je détruis les Juifs. Indirectement.
Indirectement. Et bah, du coup, je me suis demandé, est-ce que je pourrais mettre quelqu'un d'autre, de très détestable, tu vois, qui rendrait notre super-héros, du coup, pas détestable par procuration, mais pas loin. Tu vois,
non, mais je vois ce que tu veux dire, ça intéresse. Pour l'expérience de pensée, c'était bien d'avoir mis l'ultime salopard, en tout cas dans l'image.
Ça focalise.
C'est un vrai super vilain.
C'est ce qu'il fallait faire.
Merci beaucoup.
C'est un vrai super vilain.
Du coup, c'était plus un super vilain qu'un super héros. Enfin, c'est un héros, c'était l'autre.
Ouais,
héros,
bah c'est pas sa faute.
C'est un héros ordinaire qui a donné naissance à un super vilain.
C'est ça.
Intéressant.
Dans la suite, on pourrait inventer l'histoire du super héros contre le super vilain, mais ça, c'est autre chose. Tu vois. Puis je vois pas comment un homme banal pourrait. Surtout Gunther, tu vois.
Au-delà de l'histoire maintenant, qui était cool, qui rigolote et tout, je tiens à souligner la forme. J'ai trouvé ça très cool. Et du coup, en plus, c'est vrai que de me permettre de lire là, je voyais bien. Mais je trouve que ces passages, je relance quelques sound design. Mais tu sais, quand t'as ces musiques-là, là. D'ailleurs, je voulais parler du coup, je profite de laisser un peu cette musique, et même celles qui vont après, d'ailleurs, toutes tes musiques. C'est des musiques, c'est pas un truc qui suit un jeu.
Pas du tout. Non, pas du tout.
Parce qu'il n'y a pas un jeu avec
ce
genre de musique un peu jazzy.
Grim Fandango ? Il n'y a pas ça dans Grim Fandango ?
Ah, je sais.
Grim Fandango ? Je me trompe.
J'ai jamais joué.
Mais en tout cas, je trouve que de la même manière que quand tu avais fait le polar un peu noir, Là, t'as réussi à créer un truc, et quand tu décris les scènes de la scène finalement qui lui permet de devenir un super héros, je trouvais ça super cool. Ça me rappelait un peu la série, enfin pas la série, les films Sherlock Holmes, quand il analyse tout au ralenti et qu'il se passe plein de trucs. Et j'avais l'impression que t'étais une voix off d'un ou d'un film même de Guy Ritchie. T'étais la voix off d'un film qui disait et là, tac, le chausson qui part dans le mur et qui fait ce truc là. On n'aurait jamais pensé qu'un enfant ça pouvait aller à 45 km/h face à un mur et tout. C'est genre un truc qui va trop vite. Et j'ai trouvé ça très bien. Dans
moi, je trouve que Florian est très cinématographique.
C'était très cinématographique et c'est dur à décrire. Les scènes d'action et finalement là le cœur de ton truc c'est de l'action et moi je trouvais ça sympa avec cette ambiance là. Voilà, c'est tout ce que
merci
j'avais
beaucoup. La musique, excusez-moi monsieur Thomas,
mais il n'y a pas de problème monsieur Florian.
La musique s'est un peu imposée à moi quand j'ai commencé à chercher des musiques, etc. Je me suis demandé est-ce que je vais faire un truc un peu dans le cadre temporel ou un peu hors du cadre temporel, et je me suis dit un truc intemporel, universel, un petit peu de jazz, tu vois.
Mais oui,
c'est ce qui fera passer la pilule déjà. Ouais, tu fais un solitaire.
Pour le coup, tu fais un peu années 30 et tout, non?
Dans des clubs,
enfin, ça pourrait fonctionner, quoi.
Ouais, mais c'est pas trop ça. C'est
pas vraiment le genre de musique.
Les années 40, 50.
Années 30, c'est plus les années folles, vous voyez, le truc qui va hyper vite dans l'image.
Ouais, c'est un peu plus tard.
On n'était pas.
Et du coup, là, je voulais vraiment un truc un peu intemporel et qu'on sache pas vraiment à quelle époque c'était. Pour moi, c'était juste Gunther à Düsseldorf et on ne pouvait pas forcément savoir que c'était dans ces années-là.
C'était super, Gunther à Düsseldorf. Moi, j'ai une dernière chose à dire avant qu'on boive un coup.
Oui. Je pensais que tu allais dire.
Moi, je voulais savoir, dans ton écriture, je vais noter la phrase et je vais m'expliquer comment on fait ça. Quand il se réveille un an après, Gunther, comment se gratte-t-on l'entrejambe d'un geste ample?
Comme ça,
Ah, c'est ça, là? Ah oui, d'accord. On fera une vidéo pour les auditeurs, oui. Non, peut-être pas. Parce qu'à nouveau, on est nu, hein, ça n'a pas changé.
Et Florian est toujours en grand écart.
Voilà. Tout à fait. Mais ce n'est pas un geste rapide et sec qui gratte, tu vois, c'est genre.
Oui, c'est. Oui.
Limite, il s'étend en même temps, j'avais l'impression tu vois.
Qu'il faisait le tour, il faisait un peu un soleil avec sa main.
Un peu comme un guitariste de hard rock.
Venir à l'arrière et passer comme ça.
Bon, je ne sais pas.
Non, pas du tout.
C'était intéressant. Mais je pense que c'était important de faire le point là-dessus.
Oui, c'est intéressant, c'est important.
On boit ?
Les gens veulent savoir.
Alors, avant de passer à la chronique suivante, on va boire l'alcool de Chine. J'ai envoyé un petit message.
Du coup, c'est moi qui passe après.
Vous pouvez dire.
À la tienne.
Ouais. Vous pouvez dire Tsoyga. En chinois, on dit Tsoyga.
Tsoyga.
Ça veut dire cul sec, allez-y.
Cul sec, super. Ça veut pas dire. Après, je dois lire une chronique.
Non, oui, parce que moi, je bois pas, en fait, parce que je suis un peu malade.
Ah, mais t'as vraiment fait cul sec ?
Bah oui, on m'a dit cul sec. C'est bon ? C'est bon, ça se boit
sans soif. C'est bon, et pourtant, ça se boit sans soif. C'est 50 degrés. J'ai demandé à ma chère étendre pendant ce truc, ça s'appelle de l'ergotau. Ergotau, je sais pas comment ça se prononce.
Ergotau.
Moi, je trouve que c'est fort.
C'est 43 degrés, ça va.
Oui, voilà, je disais, fou.
Tout ça pour ça.
Allez, à toi de jouer, fais-nous rêver. Emmène-nous dans un monde meilleur que tu as trouvé dans ton cœur.
Très bien. Un monde sans Hitler.
Tiffany plus Aaron égale amour.
La chronique qui suit est susceptible de présenter des scènes pouvant heurter la sensibilité du jeune public.
Ce matin, Tiffany se réveilla avec une petite boule dans le ventre. C'était son premier jour en tant que professeur à la Super School, l'une des meilleures écoles de super-héros du pays. Alors forcément, pour elle, ce devait être un grand jour. Les grands jours impliquant toujours les grands questionnements, elle hésita longuement devant sa garde-robe. Devait-elle choisir son costume de super-héroïne, un collant intégral vert moulant, qui, s'il mettait en valeur le galbe harmonieux de son corps, n'était pas forcément la tenue la plus adaptée pour une rentrée des classes. Ou plutôt ce tailleur, rayé et chic, qui la rendait plus stricte. Par ailleurs, le tailleur pourrait aussi lui procurer la légitimité toute relative qu'un pantalon pouvait apporter à une professeure face à ses élèves. Tiffany essaya le collant, puis le tailleur, puis re-le collant, puis le tailleur, avant de finalement opter pour une troisième option. Mouvement classique, consensus stylistique, une petite robe à fleurs, printanière et passe-partout. Tiffany se regarda une dernière fois dans le miroir. Face à elle, une jeune femme de 29 ans, intelligente, déterminée et plutôt jolie, la dévisageait avec un petit sourire plein de malice. La jeune femme regarda sa montre, il était 8 heures, l'heure d'aller donner le premier cours de sa vie. Lorsque Tiffany entra dans la salle de classe, elle le vit immédiatement. Il était pourtant assis au dernier rang, derrière plusieurs rangées de jeunes super-héros, affublés de tenues toutes plus fantasques les unes que les autres. Lui, il était différent. Il était habillé sobrement. Jean, t-shirt et veste en cuir. Un petit air de James Dean, se dit Tiffany. Il ne fit même pas attention à elle. Il plaisantait avec quelques copains. Il avait le menton carré et le sourire sincère, l'œil pétillant de celui qui n'a rien à cacher, le dos droit et le corps bien fait. Son t-shirt le moulait un peu. Et alors qu'il partait dans un grand éclat de rire, Tiffany put voir le dessin que ses abdominaux formaient dans une mosaïque délicate mais puissante. En un instant, la poitrine de Tiffany se gonfla légèrement. Panique, panique, panique. 1, 2, 1, 2, se dit-elle intérieurement. C'était son truc personnel pour se remettre les idées en place. Elle détourna les yeux en rougissant franchement et fila jusqu'à son bureau sur lequel elle jeta ses affaires dans un fracas, le dos tourné aux élèves qui enfin remarquèrent leur nouvelle enseignante. Personne n'avait relevé son drôle de comportement. Enfin, c'est ce qu'elle espérait. Elle souffla pour se donner du courage, et surtout pour retrouver le professionnalisme qu'elle n'avait pas encore pu rencontrer. Puis elle se retourna pour commencer son cours. Pendant près d'une heure, elle fit tout ce qu'elle put pour ne surtout pas dépasser du regard le troisième rang. Mais inlassablement, et contre son gré, ses yeux semblaient attirés vers lui, comme aimantés. À chaque coup d'œil vers Aaron, c'était son nom, elle l'avait découvert en faisant l'appel, un coup de chaleur la faisait tressaillir. Elle se sentait comme une petite fille devant son père en pleine période oedipienne, mais avec les œstrogènes en plus, et ça, elle ne l'avait pas du tout prévu. Elle qui était toujours toute en maîtrise, elle ne parvenait pas à contrôler son corps, et le mélange panique-désir qui s'était emparé d'elle lui donnait quelques maux de tête invraisemblables. Elle avait chaud, très chaud, trop chaud. Elle était terrifiée à l'idée que ses élèves remarquent son état, et encore plus à l'idée que lui remarque l'effet qu'il avait sur elle. Si Tiffany avait pu devenir invisible à ce moment-là, elle le serait sans doute devenue. Enfin, non, correction. Tiffany aurait pu devenir invisible à ce moment-là, car c'était le pouvoir que ses parents avaient choisi pour elle à sa naissance. Mais elle ne le fit pas, car malgré tout, il lui restait encore un peu de lucidité. Et cette lucidité inespérée lui avait fait remarquer que sa petite robe printanière collait à son corps, trempée par la sueur qui ne cessait de s'y accumuler. Devenir invisible, maintenant, aurait été catastrophique, car tous ses élèves auraient alors vu cette robe humide flotter dans l'air, comme si elle sortait du lave-linge. C'est pendant qu'elle se faisait cette remarque que son regard croisa celui d'Aaron, pour la première fois de l'heure. Il souria. Tiffany sentit un frisson remonter le long de son épine dorsale. Son dos était parcouru de picotements. Sa bouche s'était entrouverte, mais rien n'en sortait. Un blanc. Ses élèves levèrent quelques sourcils interrogateurs alors que, dans sa tête, une tempête faisait rage. C'est la sonnerie de la fin des cours qui la sortit de sa torpeur. En un instant, la salle était vide. Elle souffla. Un milliard d'idées contradictoires s'entrechoquaient en elle alors qu'elle s'épongeait le front d'une main moite. Quelques heures plus tard, Tiffany était enfermée dans les toilettes de la salle des super profs de la super school. Elle pleurait en silence. Elle se sentait ridicule. Elle n'avait même pas tenu un jour. Elle qui attendait ce jour en question depuis des années. Elle qui avait travaillé plus dur que tous les autres pour être acceptée dans cette école. Elle qui avait sacrifié ses soirées à réviser pendant que les autres se bécotaient dans les boîtes de nuit de la ville à exhiber leurs pouvoirs tous plus impressionnants les uns que les autres. Parce que non, Tiffany n'était pas dotée d'un pouvoir original ou intellectuel, d'un pouvoir de parent urbain, comme la transmutation ou la cinétique chimique. Non, ses parents étaient des gens simples de la campagne et ils avaient choisi pour elle ce pouvoir commun et répandu qu'était l'invisibilité. Un pouvoir mineur qui faisait railler l'intelligentsia urbaine. Un pouvoir de super beauf, avait-elle entendu pendant toute sa scolarité dans les écoles de la ville. Mais contre le destin, elle avait travaillé. Elle avait réussi. Et aujourd'hui, dans ses toilettes, elle déchantait. À cause d'un élève qui, en moins d'une heure, avait ruiné tous ses espoirs. Car malgré tout ce qu'elle tentait de faire pour arrêter de penser à lui, il occupait de plus en plus ses pensées. Et plus elle songeait à lui, et plus elle était sexuellement excitée. Son cœur faisait des bonds qu'elle ne parvenait pas à réfréner. Elle se sentait souillée par son propre désir incontrôlable en imaginant Aaron lui saisir les hanches de ses mains fermes et calleuses. Et alors qu'elle ne savait plus quoi ressentir, la porte des toilettes de la salle des super profs s'ouvrit dans un grincement.
Second avertissement. Attention. Les scènes pouvant heurter la sensibilité du jeune public, dont le premier avertissement vous avertissait au début de cette chronique, vont surtout être développées à partir de maintenant. Merci d'éloigner vos enfants de ces oreillettes.
un bruit de pas résonna. Puis un second, lentement, quelqu'un était entré et avancé vers la cabine de Tiffany. Elle se mordit la lèvre et retint son souffle. Cette fois-ci, son cœur ne battait plus. Il lui martelait la poitrine si fort que les coups semblaient résonner dans toute la pièce. Les pas s'arrêtèrent devant sa porte. Et alors qu'elle faisait un pas en arrière, envahie à la fois par la peur et par le désir charnel, la poignée de sa cabine se baissa, lentement. C'était lui, la veste sur l'épaule. Il la fixait avec la profondeur des abysses et lui souriait avec la puissance d'un océan. Elle, elle le dévisageait. Elle bredouilla un « Aaron, c'est... Qu'est-ce que tu fais là ?» Mais avant qu'il n'ait le temps de répondre, Tiffany vit son bras se tendre vers son élève pour l'inviter à lui prendre la main. Il l'effleura doucement, en souriant. Mais d'un coup non contrôlé, elle le tira vers elle sèchement en refermant la porte de la cabine d'un geste adroit de la jambe. Leur corps se touchait maintenant. Elle caressa son épaule, puis son cou, ses cheveux, son visage. Puis elle attrapa sa nuque et attira sa tête vers elle pour l'embrasser. Elle glissa sa langue dans la bouche d'Aaron, qui l'accueilla avec plaisir et vigueur. Le contact fut comme une décharge électrique pour Tiffany, et elle se colla encore un peu plus à lui. Elle en était sûre maintenant, et leur cœur battait exactement au même rythme. Ils s'embrassèrent plusieurs longues minutes. À présent qu'elle avait bravé l'interdit, l'excitation grandissait en elle, et, à ce qu'elle pouvait ressentir, l'excitation grandissait aussi en lui. Pardon. À présent qu'elle avait bravé l'interdit, l'excitation grandissait en elle, et, à ce qu'elle pouvait ressentir, l'excitation grandissait aussi en lui. Aaron remonta la robe de Tiffany le long de ses cuisses alors qu'elle s'affairait à forcer l'entrée du jean de son élève. Finalement, la robe et le jean glissèrent à terre dans le même mouvement. Ils étaient désormais tous les deux en sous-vêtements. Le soutien-gorge de Tiffany laissait deviner une poitrine assez petite qu'Aaron sembla heureux de découvrir. D'un geste habile, il le détacha. Les doigts de Tiffany se refermèrent sur les cheveux du jeune homme et la foudre sembla frapper toute la super school quand les langues des deux amants s'entrechoquèrent de nouveau. Une petite culotte vola jusqu'à la cabine voisine, suivie d'un caleçon lancé rageusement. Et la chimie du sexe opéra. Dans une violente sensualité, prise en bouche, danse de langue languissante, enchevêtrement humide et embué, caresse douce mais ferme, électricité, sueur, érection, le corps de Tiffany devenait invisible partiellement à mesure que le plaisir la traversait. Tantôt un bras, tantôt un sein, tantôt une explosion d'invisibilité qui la traversait de part en part. Une queue sinueuse s'enfonçait dans ce qui semblait n'être que de l'air et qui n'était autre que l'intimité la plus profonde de la jeune femme. Fellation vorace et déterminée, doigts crispés et pourrageurs, tétons dressés et sexe en fleurs. Les ongles se plantaient dans les dos, les langues exploraient chaque parcelle de peau vierge, les minutes étaient des heures et les toilettes un paradis d'hormones s'élançant les unes contre les autres comme deux armées sur le champ du désir. Orgasme, nouvel orgasme, Aaron, puis Tiffany, le yin et le yang, la vie et le cosmos, la jouissance et le tonnerre, la professeure et son élève, l'interdit et l'envie. Un dernier coup de tonnerre, la foudre, une dernière main serrée sur une nuque invisible, un dernier gémissement, c'était terminé. Aaron recula d'un pas en regardant Tiffany qui regarda Aaron en avançant d'un pas. Une larme coula de la joue de la jeune femme et tomba sur son sein nu et fièrement dressé.
Troisième avertissement. Vous pouvez dorénavant rappeler le jeune public. Les scènes pouvant heurter leur sensibilité sont à présent terminées. Néanmoins, l'abus d'alcool est dangereux pour votre santé. Et d'ailleurs, en parlant de votre santé, un petit conseil, mangez, bougez. Peggy 18.
Le lendemain matin, Tiffany se tenait assise dans le bureau de la directrice de la Super School. Elle avait tout avoué. Elle n'avait finalement pas eu le temps de devenir professionnelle que son professionnalisme l'avait pourtant déjà sommé de ne pas cacher la vérité. Lorsque la directrice éclata d'un rire franc et sincère face aux explications de sa jeune professeure, Tiffany fut, il est vrai, quelque peu désarçonnée. « Aaron ? Aaron Whistelaine ? C'est bien avec lui que vous avez fait l'amour dans les toilettes de la salle des professeurs de la Super School hier soir lors de la rentrée des classes ?» demanda la directrice. Tiffany avait toujours les yeux baissés et les joues rouges quand elle confirma le nom d'Aaron. La directrice reprit. Cela fait maintenant 4 ans qu'il nous fait le coup avec les nouvelles comme vous. On pourrait appeler ça une sorte de bizutage si vous voulez. Manipulation sensorielle, ça vous dit quelque chose ? Tiffany était perdue, elle fit non de la tête. Eh bien rassurez-vous, mademoiselle Crane, vous n'avez pas couché avec votre élève hier soir dans les toilettes de la salle des professeurs de la Super School. Vous en avez juste eu l'impression. Manipulation sensorielle, c'est son pouvoir, pouvoir majeur. et surtout malsain dans le cas d'Aaron. Ses parents ont eu la bonne idée de lui attribuer à la naissance et depuis, eh bien, disons qu'il s'amuse un peu trop souvent avec les sentiments des autres. Il est incorrigible. Mais rassurez-vous, comme chaque année, il sera collé pour ça, et sévèrement. Je m'excuse au nom de toute l'équipe, on aurait dû vous prévenir. Vous pouvez retourner en cours, je convoque Aaron tout de suite. En sortant du bureau de la directrice, Tiffany était encore plus décontenancée que jamais. Manipulation sensorielle, c'était impossible. Elle éprouvait réellement quelque chose pour Aaron, quelque chose de fort, quelque chose d'impossiblement fort. Elle éprouvait une tempête. Cela ne pouvait pas être entièrement faussé par un simple pouvoir, majeur ou non. La directrice avait dû se tromper. Oui, c'est ce que Tiffany se dit en marchant vers la salle de cours. La directrice avait dû se tromper.
Superbe.
C'était,
quelle chronique.
C'était la première chronique érotique d'Alain et les garçons. Bravo à tous, j'applaudis à nouveau.
Bravo. Merci. Mais tu devrais faire ça tout le temps. T'as un véritable don, dis donc, pour l'écriture de
surtout,
romans érotiques.
Finalement, j'ai bien aimé. Hein. T'enlèves les parties érotiques. Elles durent 2 minutes. C'est très peu de péripéties, en fait. Je rentre, je rencontre, je baise, je n'y crois pas. Il y a que du cul.
Bah après, c'est un peu le principe de la chronique.
Ouais, non, mais c'est réussi. Hein. Et t'as mis du cul dans une école de super-héros, donc.
Bah, c'était le thème.
Je veux dire que ça aurait été le thème vélo, bah, ça aurait été des cyclistes. Quoi.
Mais non, parce qu'en fait, c'est parce que je trouvais ça sympa qu'elle puisse faire l'amour et tu sais, devenir invisible à des moments. Ça veut dire que le mec, j'imaginais que c'était pas dingue de voir partiellement, elle devient invisible.
Du coup, moi j'ai une question par rapport à ça. Quand ton sein devient invisible, qu'est-ce que tu vois derrière le sein? Tu vois
le mur.
Ses entrailles, tu vois.
Non, tu vois rien.
Ah, c'est comme s'il y avait un trou à la place en fait. Quoi.
Ouais,
c'est genre le sein et.
Ouais, sauf qu'elle existe, elle est toujours là. Donc,
oui, bien sûr. Mais c'est pas comme. C'est vrai que ça pose question. Quand une partie devient invisible, du coup, par exemple, le bras devient invisible. Et bah, à la jonction de la partie invisible et la partie visible.
À la jonction,
tu vois. Est-ce que tu vois du corps et tout?
C'est intéressant.
Je pense que c'est effet d'optique, selon comment tu regardes.
Oui, peut-être.
Mais très intéressant. Moi, j'aime bien l'idée de. Moi, je suis pas très sexe, hein, donc je vais vous parler d'autre chose. J'aime bien l'idée de pouvoir de Pecno, enfin le pouvoir de compagnon.
J'adore ça aussi.
L'idée qu'il y a une sorte d'échelle sociale des pouvoirs, et t'as les pouvoirs de citadin. Et les pouvoirs de campagnard et les machins, et t'arrives de la ville avec ton petit pouvoir de
visibilité.
Mes parents, c'est un peu
classique.
Comme t'as un prénom un peu de beauf. Je vais de la campagne, j'ai un prénom de beauf et je dois le porter, comme Florian par exemple.
Je ne répondrai pas.
Il a un prénom de Péloy les Vignes.
Quelle attaque gratuite! Quelle attaque gratuite!
Non, c'est juste pour rappeler aux gens qui viennent Péloy les Vignes, ça les fait rigoler.
C'est vrai ça.
C'est vrai. Et ouais, non, je trouve ça très cool, bravo.
Quel serait ton pouvoir, toi, Thomas, si t'étais un super-héros?
Hein, probablement arrêter le
temps.
Arrêter le temps, je pense.
Pouvoir de bouffe.
Ah non, c'est top.
Manipulation mentale, c'est génial.
Superbe.
Et oui.
En tout cas, je voulais dire que c'était plus compliqué que ce que je croyais quand je me suis dit je vais écrire une nouvelle érotique parce que ça fait longtemps que je voulais en écrire une.
Ouais.
Et bah, c'est pas si facile que ça parce que c'est une écriture qui est basée un petit peu sur les sensations et du coup, tu dois vraiment faire ressortir. Et du coup, j'en ai lu.
C'est vrai.
Du coup, je suis allé lire plusieurs choses, etc. Et je suis allé donc lire plusieurs, dont une qui m'a permis de voir un petit peu la construction qui s'appelle L'abandon d'Elisa. Qui a été écrit par Monica Lewinsky. Je vais quand même donner son nom parce que vous allez comprendre pourquoi. Par Monica Angelini, voilà.
Ouais, c'est un prêt
qui est disponible sur Magic Maman, si vous voulez. Sur
Magic Maman.
Ouais. Et ce que je voulais dire quand même, c'était alors pas forcément elle, mais dans tout ce que je lisais, c'est que un peu comme la littérature blanche, elle prend un petit peu de haut certaines formes de littérature plus de genre. Ça peut être la science-fiction, ou toute la littérature de l'imaginaire, ou même du polar, ou des choses comme ça. On peut avoir tendance, de manière générale, à se dire « Oui, la littérature érotique, c'est tout pourri et c'est mal écrit. » Et en fait, à aller voir comme ça quelques trucs, je me suis dit bah, « C'est dans un certain style. » Et c'est vrai que quand tu regardes les titres des chapitres, sa beauté le frappa et son cœur se mit à battre. Enfin non, je ne sais pas si c'est les titres des chapitres, mais en tout cas, c'est comme ça que Magic Maman, ils ont mis les trucs. Tu vois. Mais genre, le dernier chapitre s'appelle quand même « Dans une petite pièce un peu sombre ».
C'est une métaphore sur les sodomies.
Et je voulais juste citer Monica parce que je lui avais pris une phrase que je trouvais ça super sympa qui était leur cœur battait exactement au même rythme. Et je sais pas si vous l'avez retenu celle-là. Et je l'ai trouvé pas mal et elle m'a aidé donc Monica à la construction de ça.
Ouais.
Mais je tenais quand même à dire que c'était plus compliqué qu'il n'y paraissait et qu'il faut arrêter de penser que des romans de gare et de la.
Si ça se trouve,
il y a pas forcément. Voilà, c'est exactement ça. Il peut y avoir des bons auteurs qui décident parce qu'ils ont envie de faire ça ou de faire.
Moi, je parle souvent de mon auteur, un de mes auteurs de SF préférés qui s'appelle Christopher Priest. Il a un vrai aspect érotique dans certains de ses romans.
Ah ouais ?
Ouais, bah c'est pas comme ça. Mais il y a un vrai truc sensuel souvent.
Mais d'ailleurs, effectivement, c'est pas facile et c'est beaucoup par métaphore, par faire ressentir les sensations à travers autre chose que les verbes directs. Et notamment, il y a une de tes phrases, je m'en rappelle plus exactement, mais genre. Son corps martelait, frappait la poitrine et les coups s'entendaient dans le couloir. Enfin, je sais plus si c'est exactement ça.
Son cœur ne battait plus, il l'a martelé de l'intérieur.
Et ça, on entendait les coups à travers la porte, tu vois. Ça peut être un gros sous-entendu aussi sur le sexe et tout. C'est pas si mal. C'est pas facile.
Quand tu parles de sexe, tu es obligé de broder, de construire, de transformer la chose, sinon c'est juste médical et le sexe, ça supposait être dedans, supposé te faire rêver. Si jamais tu décris médicalement, c'était très descriptif.
Il rentre, il sort.
Voilà, il rentre, il sort. Elle mouille, il mouille aussi. Tu peux pas faire ça. Il faut décrire, il faut.
Et complètement. Et en fait, ça va aussi avec le contexte, parce que le contexte est vachement important dans ça. Et que tu remarques dans les nouvelles érotiques, enfin en tout cas les exemples que je lisais pour m'inspirer, c'est que, et moi j'avais pas le temps de le faire, mais ils, avant la première scène de sexe, dans un roman érotique, je pense, j'ai pas lu tout un roman, mais je pense que c'est comme ça, ils mettent vraiment beaucoup de contexte. Et c'est genre les personnages, ils se voient, et puis en fait après, hop, elle part, elle disparaît, et alors il est deg, et donc il attend comme ça un mois qu'en pensant à elle, et puis après il la retrouve, et. Ah, il n'ose pas lui parler, et puis finalement, nana. En fait, ça met tellement. Enfin, comme finalement.
C'est les pré-préliminaires.
Mais vu que tu as ça, en fait, ça te permet de mettre vachement en valeur la scène de quand il se voit vraiment. Et je pense que quand tu le lis, tu fais ah, super, c'est à ce moment-là, etc. Bon, j'avais pas le temps de faire tout ce contexte, elle a dû baiser vite fait dans les toilettes la même journée, tu vois.
Mais c'est ça qui est. Et je pense aussi que c'est certainement dû au fait qu'à mon avis, c'est une littérature plus féminine et que les femmes sont vachement plus. Attachés à ça et plus en besoin de préparation, etc. Et tout. Un livre érotique écrit par un homme, ça doit être très étrange.
Il
la trouve bonne.
Ça fait un chapitre.
C'est ça, quoi.
Et il lui défonce.
Fin.
Et après, c'est des images.
C'est ça.
C'est bien écrit le livre. Il y a des images comme ça. Oh, il est honteux. Oh, j'aime bien le style de l'écrivain. Ouais,
bon.
Superbe.
Bon,
bah, très bien.
Bah, merci beaucoup. Super.
Putain, une grande première pour les garçons. Est-ce que quelqu'un peut ajouter autre chose ou est-ce que vous êtes tous rassasiés de plaisir?
Je suis rassasié. Désormais, je ne m'intéresse plus. J'ai les jambes croisées parce que j'ai une demi-molle.
Ah, là. Merci.
Alors,
merci pour la demi-molle.
Eh ben, on peut passer à la suite.
On passe à la suite. Alors.
Allez.
L'ascension de l'orphelin.
Une maladie orpheline est une maladie dont la prévalence est inférieure à 0,05%, soit 5 personnes sur 10 000. Romuald considérait la sienne comme super orpheline, puisque selon la cinquantaine de médecins qu'il avait été amené à rencontrer dans sa vie, il était le seul cas répertorié au monde. Et cela avait deux conséquences. Première conséquence, la maladie pourrait être un jour baptisée syndrome de Romuald, ce qui est une maigre consolation, mais une consolation tout de même. Seconde conséquence, cette maladie n'intéressait personne, sauf quelques chercheurs qui souhaitaient pouvoir utiliser Romuald comme cobaye pour travailler sur d'autres maladies, ce qui, entre parenthèses, agaçait grandement Romuald. Rappel, Big Pharma est là pour faire des bénéfices, et la loi de l'offre et la demande a prouvé que dépenser des millions pour trouver un remède qui n'aura finalement qu'un acheteur est complètement stupide. Cette seconde conséquence a pour effet d'annuler la première, puisque pour les mêmes raisons qu'évoquées à l'instant, personne ne s'amuse jamais à nommer une maladie qui ne rapporte pas d'argent. Romuald était donc condamné à vivre avec sa maladie, qui, de surcroît, ne porterait jamais son nom. Ses symptômes étaient les suivants. Maux de tête quotidiens, souvent violents, besoin en sommeil très réduit, 1h à 1h30 par nuit, capacité intellectuelle assez largement au-dessus de la moyenne, grande fatigue physique liée directement à une anomalie musculaire. Cette dernière était l'aspect le plus handicapant de sa condition, puisque Romuald devait se déplacer en fauteuil roulant et limiter au maximum l'usage de ses membres, sans quoi il demeurait paralysé de longues heures jusqu'à ce que ses forces finissent par lui revenir. Son handicap physique était survenu dès l'âge de 4 ans et n'avait fait par la suite que s'accentuer. Ses camarades de classe, cruels et peu compréhensifs, le surnommaient « Capitaine Flemme ». Comme si son manque d'entrain et ses refus à répétition à sortir jouer relevaient de la paresse. Au fil des années, s'était installée une compétition informelle et tacite dont la finalité était d'humilier Romuald de la manière la plus créative possible. Romuald a été par exemple loin de gras de porc et jeté de force dans un chenil. Il a été bâillonné et attaché au fond d'un bus dont les terminus se trouvaient être une caserne militaire située à une cinquantaine de kilomètres du domicile de ses parents, ou encore, son cartable et parfois ses vêtements ont été à plusieurs reprises jetés dans le jardin d'un vieillard présumé pédophile. Voilà quelle était la vie de Romuald. Romuald n'a cessé de se refermer sur lui-même, jusqu'à être déscolarisé peu avant son 13e anniversaire. Sa nouvelle existence était faite de solitude, de bande dessinée et de masturbation. Ses parents, peu attachés à cet enfant coupable à leurs yeux d'avoir gâché leur vie, l'évitaient autant que possible dans le couloir de l'appartement. En bon fêtard un peu dérangé, ses parents partaient en voyage, sortaient beaucoup et mettaient tout en œuvre pour échapper à leur fils. Le plus souvent, Romuald restait seul à la maison, si bien qu'il a commencé à perdre la tête. Romuald entendait des voix, parfois plusieurs par jour, parfois rien pendant des semaines. Les voix ne semblaient jamais s'adresser à lui spécifiquement. Il s'agissait plutôt de soliloques incohérents qu'il était incapable de comprendre. Des banalités, des phrases de la vie quotidienne qu'aurait pu écrire un dialoguiste talentueux pour un scénario peu inspiré. C'était comme une fenêtre sur l'extérieur. C'était comme si le monde du dehors lui revenait de plein fouet dans l'esprit par la voie toute choisie de la démence. Exemple. Bon sang, ce pantalon me fait un cul pachydermique. Ou encore. Oh non, pas encore des œufs durs, ça sent le prout. Ou encore. On n'aurait pas dû poser de la tapisserie dans le salon. Ça vieillit mal la tapisserie. J'ai l'impression de devenir ma mère. Romuald était inquiet. Être fou, ce n'est pas du tout comme on l'imagine, se disait-il. On est étrangement lucide quand on est fou. On a tout à fait conscience d'être fou quand on est fou. Lorsqu'il s'est décidé à évoquer le sujet auprès de ses parents, ils ont paru immensément soulagés. Et alors, Romuald n'était plus du tout inquiet. Il était soulagé à son tour. Puis très vite, une décision s'est imposée comme logique. Envoyer Romuald à la campagne, dans cette maison de famille un peu délabrée, pour qu'il puisse prendre du repos et mettre ses idées au clair. Évidemment, c'était pour lui, pour son bien. Évidemment, ils passeront le week-end pour le ravitailler, et tout rentrerait dans l'ordre. Ça ne faisait aucun doute, c'était la bonne décision. Romuald était à nouveau inquiet. Croyez-le ou non, cette décision était peut-être bel et bien une bonne décision, puisque du jour au lendemain, ces voix étranges ont cessé d'importuner Romuald, qui s'était installé dans la grande demeure, et cela, avant même qu'il ait eu l'opportunité d'essayer de se détendre. L'apanage du grand air, ont dit ses parents, mais très vite, Romuald avait dû se rendre à l'évidence qu'il était confronté à un nouveau problème tout aussi singulier. Il s'était installé dans ce qui ressemblait énormément à une maison hantée. À ce point assez avancé de l'histoire, il est très curieux de basculer soudainement dans le domaine du surnaturel slash épouvante, alors que nous naviguions jusqu'à présent plutôt dans le récit social slash hystérico-réaliste. Pourtant, c'est bien dans une maison hantée que semblait à présent habiter Romuald. Des livres qui chutaient dans la chambre, des portes de placard qui claquaient dans la cuisine, des meubles qui se déplaçaient, qui tremblaient, qui tombaient. Cette fois-ci, Romuald n'a pas fait l'erreur d'évoquer ses activités paranormales auprès de ses parents, qui, quoi qu'il en soit, lui rendaient visite de moins en moins souvent, accaparés qu'ils étaient par leur nouvelle vie sans un enfant bizarre dans les pattes. Romuald savait qu'il risquait au mieux de finir en HP avec des médecins qui ne s'intéresseraient pas à lui, au pire de rentrer chez lui avec ses parents distants et les enfants méchants de l'école. Il devait donc se taire, et embrasser sa solitude avec tout ce qu'elle impliquait. Les mois ont passé, et il s'était finalement très bien accommodé des esprits avec lesquels il partageait son toit. Il s'était entre-temps passionné d'occultisme et d'ésotérique, usant de ses capacités cognitives supérieures pour accumuler le savoir. Il ne voyait plus ses parents, il ne voyait plus personne, il vivait chichement dans une baraque effondrée, se faisant livrer sa nourriture sur le perron. Il était devenu un jeune homme à la peau diaphane et imparfaite, aux yeux injectés de sang, spécialiste inconnu du paranormal et à l'hygiène inexistante, vivant avec pour seule compagnie des fantômes et ses démons. Il était devenu un monstre, un marginal, un fou, sans qu'il ait pu cette fois jamais le réaliser. L'histoire de Romuald aurait pu s'arrêter ici. Elle aurait pu être celle d'un jeune homme destiné à devenir un vieil homme cinglé comme il en existe partout. Mais la visite d'un VRP devait le mener vers un autre avenir. L'homme, une carafe filtrante sous le bras, venait de sonner à la porte. C'était la première fois que Romuald entendait tinter la sonnerie. Ses parents avaient leur propre clé et personne d'autre ne venait. Un élément si banal, mais pourtant entièrement nouveau dans cet environnement familier, troublait Romuald, qui est allé jeter un coup d'œil par le judas. Il y a vu un homme d'environ 30 ans, propre sur lui, souriant, avec un bon port de tête et une attitude de gagneur provincial. La porte ouverte, le visage du VRP s'est décomposé. Il avait probablement prévu sa phrase d'accroche, peut-être une promotion immanquable à laquelle il se devait de faire bénéficier ses clients. À la place, Romuald avait entendu une voix, comme à l'époque. Une voix qui dit « Oh merde, la gueule du mec. C'est pas à lui que je vais vendre quoi que ce soit. Et au même instant, la maison entière avait tremblé, pendant une longue seconde, tandis que le monde intérieur de Romuald s'effondrait. Les yeux baissés sur ses mains, il avait compris. Depuis le début, il n'était pas fou. Pas plus que des voix ne s'adressaient à lui. Pas plus que cet endroit n'était hanté. Sa maladie, son cerveau, avait fait de lui quelqu'un de hors norme. Le VRP tournait les talons, sans rien dire, tandis que Romuald avait entendu une voix. « Ras la casquette de ce job à la con, je vais m'acheter une ferme dans le Morbihan et élever des lamas. » Et alors, d'un simple regard, Romuald claquait la porte d'entrée. Tout doit avoir une fin, mais souvent la fin n'est que le début d'autre chose. Nous sommes maintenant arrivés à ce que l'on peut appeler un nœud de l'histoire. Romuald se tournait vers le futur. Tournons-nous, nous aussi, vers le futur. Dans un an, peut-être deux, Romuald rentrera chez ses parents. Bien sûr, il ne les avertira pas. Déjà pour ne pas laisser de potentielles preuves, mais aussi pour l'effet de surprise. Il avait bien compris qu'un bon super-vilain devait travailler sur le spectaculaire. C'est au moins 50% du job. Et même s'il se classait lui-même dans la catégorie des génies du mal plutôt que des bastonneurs testostéronés, il ne pourra pas se permettre de négliger la forme. C'est aussi pour ça qu'il enfilera un masque acheté sur Internet et qu'il travaillera son look de seigneur des ténèbres / savant morbide / vengeur gothique invalide. Il achètera aussi tout un attirail impressionnant pour asseoir sa position de futur leader. Parce qu'il aura aussi besoin d'une équipe, des jeunes en bonne forme physique. Ce seront ses muscles, il sera leur cerveau. Et quel cerveau ? Recruter des marginaux ne sera pas difficile. Le monde est plein de perdants en attente de vengeance. Et cultiver la colère est facile quand on peut lire les pensées. Ils seraient l'étincelle qui leur manquait. Ensemble, ils seraient une explosion. Ses parents sont retrouvés par la police avec les organes internes broyés sans une trace sur le corps. Ce sera sa signature. Une signature inexplicable et terrifiante. Les médias et la police proposeront des explications, mais aucune ne tiendra. Ils devront le voir de leurs propres yeux pour comprendre. Mais plus tard, il devra d'abord laisser planer le mystère. Le rythme est important. Peut-être qu'il fera d'abord d'autres victimes. Peut-être parmi ceux qui se moquaient de lui quand il était petit. Ou peut-être plutôt quelqu'un au hasard, un quarterback ou un surfeur. Il laissera volontairement des traces. Plus personne ne l'appellera Romuald ou Capitaine Flemme. Tout le monde l'appellera l'orphelin, avec un O majuscule. Les médias se questionneront. Mais pourquoi ? Mais qui est-il ? Et alors, seulement après cela, il se révélera avec son armée, il se révélera au monde entier, et le monde aura peur.
Super. T'es parti dans tous les sens.
Grave.
T'es parti dans un sens, et puis après dans un autre sens, et puis après t'as fait demi-tour, et puis après t'as tourné à gauche, et après t'as pris la deuxième rond-point.
T'as noté, je l'ai signalé à chaque fois, je fais attention.
Oui. Je change.
Et j'avais même la partie où je signalais beaucoup, là, au milieu de la chronique, j'avais même fait tout un paragraphe que j'ai coupé, où je dégraissais complètement en disant, mais de toute façon, tu sais, mais pourquoi un auteur aurait fait une chose pareille ? Il ne sera jamais publié, il sombrerait dans l'alcool et violerait probablement sa femme. J'avais fait tout un truc, je fais, elle fait déjà 4 pages cette chronique, est-ce que vraiment j'ai besoin de raconter que l'auteur allait violer sa femme ? Parce que, bref, voilà.
J'aimerais pointer deux choses.
Ouais.
La première chose, c'est pas facile à dire testostéroné.
Non, et pourtant, j'ai réussi, je crois.
Oui,
mais,
je crois
mais
que
j'ai raté ailleurs. Mais...
c'est pas facile, c'est pas facile.
Testostéroné.
Testostéroné.
Faut penser à Fred Testo, quoi.
Ah, pas bête. Et deuxième chose, en fait, ce que tu m'as décrit, c'est Magneto des X-Men, mais ouais. En méchant. Parce qu'en fait, un homme en fauteuil roulant, avec un gros cerveau qui peut manipuler les objets et les pensées, qui recrute des jeunes gens perdus. En lui disant pensée, c'est Magneto et les X-Men.
C'est la version gothique de Magneto. C'est
Magneto, il manipule.
C'est God Magneto.
Il n'est pas du tout dans les esprits.
Non, si, si, il est dans les esprits, il me semble. Hein.
Magneto, non.
Il me semble, moi.
Non, c'est Professeur Xavier.
C'est Professeur Xavier.
Ah,
excuse-moi, je pensais à Professeur Xavier.
C'est la version gothique du Professeur Xavier.
Exactement.
Absolument. Les auditeurs vont voir qu'on est nul en super-héros.
Oui, c'est le mec qui a un peu pété. Ouais, ça lui a fait un peu péter un cap quand même, finalement.
Alors, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était assez difficile. J'en ai bavé. Ce que j'essayais de faire, c'est pour ça que la dernière partie, elle est au futur. Parce que je voulais laisser une ouverture. Parce que est-ce qu'il est fou ou est-ce que vraiment il a des super pouvoirs ? Est-ce qu'il entendait des voix depuis le début ? Parce que c'était la base de ma chronique, c'était ça. C'était l'idée simple. C'était en fait, mais quand on entend des voix, enfin quand on peut lire l'esprit des gens, au début on doit croire qu'on entendait des voix. Mmh. Tu vois, je me suis dit, c'était l'idée de base. Et donc j'ai développé autour de ça. Mais est-ce que finalement il est devenu fou ? Vraiment, et à tel point qu'à la fin il croyait même jusqu'à avoir des super-héros alors qu'il entendait vraiment des voix parce qu'il était déjà fou. Ou est-ce qu'en fait vraiment les
comprenez bien l'explication. Parce qu'en fait vraiment ça faisait ça et donc du coup parce que après quand il a vu ça après c'était comme ça et du coup c'était pas là.
et pourquoi j'étais perdu.
Et pourquoi tu l'as enfin il y a certainement raison de le faire devenir un super vilain.
Ah, parce que je voulais qu'il se venge, je trouve ça plus cool.
Mais du coup, à un moment, j'ai l'impression que le VRP entend aussi une voix et du coup, j'ai pas compris.
Non, en fait, justement, il parle jamais et par contre,
il a entendu la voix, il dit ça va pas être facile de lui. Ok, c'est lui qui entend ça, d'accord.
C'est Romuald qui entend ça et c'est là qu'il comprend, genre putain, en fait, il fait le lien entre sa gueule et la phrase. Il dit, mais en fait, c'est pas des voix, c'est joli ses pensées.
Romuald, c'est tellement nul comme prénom pour un super méchant.
Mais c'est pour ça qu'il s'appelle l'orphelin.
Mais c'est mieux, c'est vachement mieux.
Et il se considère comme orphelin parce que ses parents sont jamais occupés de lui.
Après, moi, je trouve un peu sévère avec ses parents.
Ouais, c'est clair.
Bah, c'est sympa quand même.
Et alors, pourquoi il y a un autre truc que je m'étais noté. Oui, quel sujet il a évoqué à ses parents pour qu'il l'envoie dans la maison?
Il a dit qu'il entendait des voix.
Ah. Et ses parents. Et du coup, ses parents, ils l'envoyaient dans une putain de maison tout seul. Dans
En fait, comme je le dis un peu, ils saisissent un peu l'opportunité parce qu'ils le supportaient pas, ils voulaient vivre leur propre vie.
Mais il avait quel âge au moment où il l'envoie?
13 ans.
Dans ta tête, à 13 ans, il l'envoyait vivre tout seul dans une putain de maison.
Ils sont irresponsables.
Alors peut-être qu'ils le méritent.
Pour ça qu'ils étaient soulagés, du coup.
Oui, c'est ça. Et après, ils allaient quand même le voir et tout, puis à la fin, ils n'y plus du tout.
Est-ce que ses parents savaient? Non. Qu'il avait des super pouvoirs?
Non,
il l'aurait mis dans une émission de télé-réalité, pas dans un manoir perdu dans la campagne.
C'est évidemment que j'aurais fait ça, mais tu réfléchis ou quoi, Florian?
Mais
autant pour moi, très bien.
Tu lis Adam Levine, toi, en ce moment, non?
Ouais, pourquoi? Ça ressemble, tu trouves?
Mais non, mais t'sais, c'est un gamin un peu timbré qui est assez intelligent quand même, mine de rien.
C'est vrai.
C'est un gamin un peu timbré qui parle quand même plutôt bien, qui entend des voix.
Ah oui, c'est vrai aussi. Putain, j'ai été influencé complètement, ça me rend compte.
T'as été très influencé parce que, du coup, actuellement, désolé pour. C'est parce qu'on s'est parlé en off et du coup, je sais que Thomas lit en ce moment un livre d'Adam Levine
qui
s'appelle
Bubblegum,
qui est une recommandation d'Aline et Garçon et dans lequel, on va pas vous rentrer dans le détail, mais dans lequel un enfant très intelligent entend des voix, en gros.
Surtout qu'on va pas rentrer dans le détail parce qu'on a déjà expliqué ça il y a quelques épisodes.
Voilà, c'est clair. Donc c'est drôle.
Et je me suis dit au début. J'ai pas tilté du tout.
Je me suis dit au début, c'est très Adam Levine, puis après, t'es revenu vers tes premiers amours que je trouve qu'à partir de la maison hantée, à partir de là, et surtout dans la maison hantée, je me suis dit tiens, ça va devenir Lovecraftien. Puis après t'as le VRP un peu qui arrive et tu reprends le côté un peu déglingo dont tu parles du début, hystérique, etc.
Non, mais la folie,
je me suis dit ça devient du Lovecrafto déglingo, tu vois.
Donc c'est n'importe quoi.
Donc c'est n'importe quoi.
Lovecrafto déglingo. J'adore ce terme. Est-ce que ce sera le nom de l'épisode?
Peut-être. Mais c'était cool. Très, très cool.
Bravo. Ok, et bah, c'est terminé pour Romuald et qu'il va pouvoir lui aussi partir au Morbihan.
C'est un long épisode, là, non?
Oui, on va être long. On va être très, très long. Mais c'est pas grave, on aime bien.
Merci à tous les vrais qui sont encore là.
Merci à tous les vrais big up.
Big up.
On se fait un petit quiz. Ah, d'abord, je vais vous faire des cadeaux.
On se fait
une virgule, on se fait des cadeaux, on se fait des quiz et après, on se fait des bisous.
Allez, après, on se dit au revoir, on se fait la bise et puis basta, quoi.
Puis basta. Basta così.
Comme je disais un peu au début d'épisode, j'ai quelques cadeaux, surtout pour Florian, mais j'en ai quand même pour toi. Donc vous savez, moi j'adorais la Chine. Simplement, ils perdent par rapport au Japon sur le.
C'est des gachapon chinois.
Non, ils perdent sur le Japon par rapport à la culture, enfin la pop culture, au soft power. Je voulais vous ramener des petits, des sortes de Kinder chinois avec des bonhommes chinois de là-bas. Tenez, je vous en donne.
Merci.
En fait, c'est japonais. Ma meuf m'a dit, mais.
Ah, c'est japonais.
Ma meuf qui est donc chinoise. Ah mais non, mais en fait, elle va dire, mais c'est
Kinder, ça,
par
ça
contre, c'est bien de leur ramener ça, mais c'est japonais. Ouais, en fait, il y a du chocolat dedans, puis il y a des jouets.
Il y a du chocolat dedans.
Il y a du plastique autour.
Il y a du chocolat dedans avec du plastique autour.
Je crois qu'il y a du. Je sais pas, écoutez,
mais le verre là, c'est pas du.
J'ai envie de te dire, c'est écrit en chinois. J'en sais rien.
C'est écrit en japonais, t'as dit que c'était japonais.
Oui,
c'est trop cool.
C'est chinois, made in Japan.
Donc voilà, ça, c'est les premiers cadeaux, c'est un peu.
On dirait des Bioman, genre de choses.
Ils sont pas mal.
Mais bon, du coup, c'est japonais, c'est un peu raté quoi.
C'est effectivement des kanji.
Ouais, mais tu sais que ils ont trois systèmes d'écriture, les japonais, dont un qui est emprunté aux chinois. Non, les japonais, dont un qui est emprunté aux chinois.
Voilà. J'arrive pas à l'ouvrir.
J'avais ramené.
Attends, on va prendre des photos avant.
Ah. Pour Florian, j'avais ramené du thé. C'est du thé, c'est du Longjing.
Longjing.
C'est de la qualité.
La bouteille est très belle.
C'est du plastique. Et je t'explique ce que c'est. En fait, ça c'est du thé aussi. Ça c'est le thé. Ça tu mets dedans. Et en fait, c'est du thé qui a été développé spécialement pour pouvoir
Florian.
Pour toi, par une équipe, pour pouvoir faire du thé glacé parce que je sais qu'on aime bien le thé glacé.
Super.
Et j'avais prévu de vous boire la gueule avec l'alcool là. Ouais. Ça, tu peux mettre, et c'est du vrai thé vert Longjing. T'en parleras à ma copine, elle t'expliquera mieux que moi.
Et du coup, l'eau, tu la mets.
Tu mets ton. En fait, ça, ce qu'il y a dedans, c'est la dose qu'il faut mettre, et après, tu remplis d'eau. Ok, voilà.
D'accord.
Je t'expliquerai après parce que les gens ne voient pas.
Oui,
mais ça,
oui,
c'est
bien sûr, bien sûr.
C'est très pratique.
Toi, je t'ai acheté une BD pour ton truc.
Ah.
Mais c'est une vraie BD qui date des années 70, parce que c'est une BD de communiste et qui traite. C'est, je sais plus ce que ça veut dire, ça, c'est. Le voyage de l'empereur vers l'est, et c'est l'histoire d'un empereur qui conquérit l'ouest. Et vu que t'es un empereur toi-même, Vic,
bah c'est vrai, je suis un empereur. Je me disais que
une vraie vieillerie qui vient de là-bas.
Super, c'est parfait, merci beaucoup.
On échange,
ça va aller dans la vitrine.
Mais on échange, je suis pas content de mon
cadeau. C'est là où Florian a un cadeau en plus. Florian, juste au moment où je suis parti il y a deux mois, t'étais en période tampon. Et là-bas, ils adorent les tampons. Oh. Je suis même allé visiter des usines de tampons. Donc, je t'ai acheté un tampon panda.
Il
pourquoi
est trop cool.
Parce que ton animal totem, c'est le panda.
Bien sûr.
Et le dernier cadeau, après, on passe au quiz. Je voulais aller trouver des petits bouquins sympas, mignons.
Elle
et des
est
trucs,
très, très sympa.
C'est cool, ouais. Ouais, c'est un vrai truc d'époque et tout.
T'aimes bien le scénario?
Mais en plus, avec les images, tu peux à peu près comprendre.
Enfin, regarde.
Et je voulais aller trouver des bouquins, des choses sympas et tout. Et notamment, je me suis dit, j'allais ramener une édition chinoise à Florian de Trois Corps, de Liu Cixin.
Ah, ça va, c'est cool.
J'en ai trouvé plein.
Ah, ouais.
Et elles n'étaient pas belles du tout. Par contre, j'ai trouvé un autre truc là-bas que j'avais acheté pour toi à l'origine. Et vu que je n'ai pas trouvé pour toi, je l'ai acheté pour tous les deux. C'est le même cadeau, c'est pas cool. Et ce n'est pas du tout chinois, mais je trouvais ça trop cool. C'est une édition écrite en chinois de 2000 ans de l'espace. De vrai. Et elle est trop belle.
Elle est trop belle.
C'est trop cool. J'allais vous la ramener parce que c'est 2000 ans de l'espace
c'est trop
en
canon,
chinois.
Quoi.
Et elle tabasse. Elle est trop belle, je trouve.
Ah, c'est trop classe.
Putain. Et du coup, je me dis que ça irait bien dans les vitrines. Et
ça se lit de gauche à droite?
Ça se lit non.
Il y a des tirés et tout comme si c'était.
Ça se lit de gauche à droite et.
Pas comme les Japonais quoi.
Non, avant c'était de droite à gauche et ils ont modernisé en faisant de gauche à droite.
D'accord.
De 2000
ans. Pas comme ces contes japonais.
C'est tout de même extrêmement joli l'écriture.
Ouais, c'est super beau.
C'est vraiment genre.
On prendra une photo, vous le montrera. Et dessus là, vous le savez pas, mais il y a une citation de Liu Cixin, mais je peux plus vous dire ce que c'est, je l'ai oublié. On se fait un petit quiz ou pas? Parce que les auditeurs, ils n'ont pas pu voir tout ça, ils ont dû se sentir un peu esselés.
Ouais. Okay.
C'est chiant, ce podcast.
Ils ont besoin de rire.
J'étais en train d'ouvrir mon œuf et
on
tout.
On fera ça après. On vous prendra peut-être des petites photos, notamment des bouquins, peut-être, ce qui est plus intéressant. On mettra ça sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, MySpace.
Alors attendez, parce que moi, du coup,
Grindr, adopte un mec.
Grindr.
Il ne s'arrête
pas. Adopte un mec.
Bah, j'essaie de meubler pendant que tu fumes des clopes. Là,
je ne fume pas des clopes, je suis en train de chercher le texte de mon quiz.
Tu veux que je mette la musique que tu m'as dit, c'est la musique du quiz?
Non, pas pour l'instant, suite, bientôt. Okay. D'ailleurs, Il vous faut des noms d'équipe. Déjà, j'aimerais dire que c'est mon grand retour sur la scène des quiz.
Fait
longtemps.
C'est vrai que Florian, qui était le master of the quiz, ça fait si longtemps que tu n'as pas cuisiné.
J'ai pris ma retraite, effectivement. Et maintenant, je suis revenu.
Là, tu avais super envie de cuiser, tu t'es dit.
Exactement. Et quoi de mieux qu'un concept, un bon concept original pour revenir sur la scène des quiz que j'ai complètement plagié à Burger Quiz.
Mais classique, on a l'habitude.
Et ça va être, en fait, ça va être un sel ou poivre. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un sel ou poivre.
Rappelle-nous.
C'est genre mot russe, mot français ou les deux.
Ah,
et je vais vous donner une phrase et devrez dire si c'est mot russe, mot français ou les deux. C'est pas ce que je vais vous demander. Ce que je vais vous demander, c'est super héros,
Adolf Hitler,
super ou les deux. Chelou ou les deux.
Ok, très okay. Bien.
Est-ce Mais que... d'abord, les noms d'équipe.
Eh bien, moi, je suis la petite sirène.
D'accord, très bien.
Et moi, je suis le dernier des Mohicans.
Ah, la petite sirène contre le dernier des Mohicans, c'est un beau match. Hein.
Ça va être super long, vous ne vous rendez pas compte du coup de non, dire le dernier des Mohicans.
Moi, je dirais sirène et lui dira Mohican, puis voilà.
Très bien. Musique, maestro. C'est pas du tout une musique de quiz, mais en fait, j'ai cherché, je suis tombé sur ça et je me suis dit...
Un truc
très
de
bien.
Cowboy. Ah non.
Ah, c'est pas mal, ouais. Si, on aime bien, on aime bien. Ouais.
Bon, par contre, elle dure 2 minutes 11, on risque de devoir la remettre.
C'est pas grave.
Alors,
attends, c'est quoi déjà les
super-héros, super chelou ou les deux?
Oui.
Se prend pour une araignée.
Oui, quand les deux.
Les deux, effectivement, il y a Spider-Man. On
et
sait.
Puis c'est bizarre de se prendre pour une super araignée.
Ouais, ouais, mais il y a l'homme araignée aussi qui s'appelle, enfin, que l'on surnomme l'homme araignée.
Ah oui,
mais en fait, c'est Alain Robert. Ah oui. C'est le mec qui monte au bâtiment sans rien, sans corde, que dalle, etc.
À la défense. Okay,
et il y a aussi la femme araignée sur la ligne 8. Mais ça, on en parlera plus tard.
D'ailleurs, elle n'existe plus, on la voit plus. Hein.
Mais non, on la voit plus, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle devient?
Bah, elle est coincée dans sa toile. Très bien.
Très bien. Super-héros, super-chelou, ou les deux? Son vomi est si acide qu'il peut dissoudre du béton.
Sirène.
Oui.
C'est un super-héros.
Tout à fait.
Oui.
Tu connais son nom?
Oui.
Et c'est comment?
Alien.
Non. Mais c'est un monstre, mais pourquoi pas, ça marche. Mais non, je pensais surtout à Zeitgeist. A priori, c'est un super-héros.
Ah, je connais pas Zeitgeist.
Moi non plus. A priori, il est très peu connu et c'est un super-héros dont le super-pouvoir, c'est son vomi.
Dis donc.
Il se rend compte, en fait, à son adolescence, que son vomi...
C'est un peu super chelou.
Il peut faire très très mal.
C'est aussi. Mais en même temps, tous les super-pouvoirs sont super chelous.
Oui.
Bon, voilà.
Dis donc, on dirait que ce quiz est super bien fait, du coup, entre super-héros et super chelou.
Mais c'est le quiz est super bien fait. Très bien.
Très bien, super héros, super chelou ou les deux? Mon super pouvoir, c'est de pouvoir manger n'importe quoi.
Oui, quand?
Oui.
Super chelou.
Et bah, les deux.
Ah merde.
Oh, merde.
Les deux. Alors en fait, il y a un mec, je parle de super héros, il y a un mec qui s'appelle Matter Eater Lad.
Mais c'est donc, quoi ces super-héros à la con?
C'est le bon copain qui mange de la matière, quoi. En gros. C'est si je traduis à la volée, quoi.
D'accord.
Et donc son pouvoir, c'est qu'il peut manger toutes les matières du monde, c'est-à-dire qu'il peut manger n'importe quoi, même un char, tu vois.
C'est ouf, comme Alf.
Comme Alf, je savais pas que Alf faisait ça. J'ai jamais regardé Alf.
Comme l'homme qui mange un avion.
Et je vais vous parler du coup du mec super chelou, il s'appelle Michel Lolito, je pense que vous avez déjà entendu parler. Il mange tout, du métal, du plastique, du verre.
Il mange un avion.
Ouais, c'est qu'il a mangé un avion entier.
Exactement.
En plusieurs fois.
On peut relancer la musique ?
Allez.
C'est parti.
On dirait moi quand j'ai fait mon quiz truc là, tu sais.
Super héros, super chelou ou les deux peut distinguer un être humain à plus de 1,6 km.
C'est de rien, c'est normal.
Non, il peut distinguer sa montre.
Hein ?
Il peut distinguer la montre d'un être humain.
Sirène ?
Oui.
Bah c'est un super héros.
C'est un super héros, mais c'est aussi une femme.
Quelqu'un peut faire ça ?
Et oui, et quelqu'un peut faire ça.
Wow.
Elle s'appelle, mais en vrai, c'est un super pouvoir qui est vachement handicapant pour elle. Elle s'appelle Veronica Snyder. Et elle,
Veronica Sniper. Pardon.
Ok, très bien.
T'es content en vrai,
je comprends.
C'était
bien.
Dis-toi qu'effectivement, elle peut lire l'heure sur une montre de quelqu'un qui a 1,6 km, mais c'est vraiment handicapant parce qu'elle peut même voir, par exemple, les points colorés sur la télévision.
Ah oh, merde.
Elle voit pas l'image globale, elle voit les points colorés. Tellement elle a une super vision, cette meuf, quoi.
Elle est allemande ?
Bref, improbable. Non, je crois qu'elle est américaine d'origine allemande.
Elle est allemande, fou, pourquoi ?
Parce qu'elle s'appelle Snyder, peut-être ?
Ah non, mais pourquoi cette question ?
Ah, parce que moi, les Allemands, tu sais. Pardon, excusez-moi, je
m'énerve. Très bien. Super-héros, super-chelou, ou les deux a le pouvoir de détecter les maladies des gens ?
C'est normal, ça aussi, c'est un chien.
Non, de détecter les maladies internes, tu vois.
Ah oui, c'est super-héros. C'est Ant-Man.
C'est vrai, j'y avais pas pensé, bravo. Mais non, en fait, c'est les deux.
Pourquoi ?
Il y a une femme qui est capable de faire ça, sans mentir.
Ça s'appelle un médecin.
La femme, non, la femme, en fait, elle a une sorte de vision rayon X, sans mentir.
Non.
Elle a été testée plusieurs fois. Personne ne l'explique, mais c'est comme ça.
Putain, c'est quand même.
C'est ouf, non ?
Mais c'est, ça doit.
Comment elle s'appelle ? On a un nom.
T'es sûr que c'est une vision rayon X ?
Natacha Damkina. En fait, elle est capable. Par exemple, elle a détecté.
Je Google, je veux le voir.
Elle a détecté, par exemple, chez un homme qu'il avait les organes inversés. Tu vois. Et elle a été capable aussi de distinguer chez une femme qui était enceinte.
Elle avait le poumon droit à la place du gauche.
Non, et le cœur par exemple de l'autre côté. Tu vois,
oui.
Genre de truc. Et elle a même détecté chez une femme enceinte que la femme enceinte n'attendait pas un enfant, mais deux enfants. Sauf qu'elle était. Sauf qu'elle était à genre 2-3 mois de grossesse. Ouais, tu vois,
écoute, je l'ai googlisé, ça marche pas, mais on te fait confiance.
Pas de souci.
On peut remettre la chanson.
Tu as les. Tu as les chiens aussi peuvent enfin les
oui mais
aussi
en sentant le cul
c'est à l'odeur ouais.
Voilà ouais. Elle non elle sent pas le cul des gens elle
d'accord
elle s'appelle pas Didier
Natacha Natacha ne ressent
peut-être
pas
aussi hein.
En même temps ce serait bizarre Natacha elle va ressentir le cul d'une femme enceinte fait vous c'est des jumeaux genre ça serait ouf
c'est déjà assez chelou comme ça en vrai,
oui, c'est vrai.
Alors super héros super chelou ou les deux j'aime bien celui-là elle est si grosse qu'elle peut arrêter les balles avec sa graisse
oui quand
je sais pas
vas-y
super héros,
c'est vrai, mais les deux. Je vais t'expliquer.
Oh, c'est que les deux, en fait. Parce qu'en fait, il veut juste raconter des histoires des gens chelous.
Non, parce que j'ai que des super-héros aussi.
Mais tout le monde peut arrêter les balles, mais sauf que tu meurs, quoi.
Oui, tu peux le faire qu'une seule fois. Et bah, il y a quelqu'un qui l'a fait, mais qui n'est pas mort. Il n'a même pas été blessé. Et je vais commencer par ça. Il s'appelle Rolf Mittelhaus.
Putain, encore en allemand.
Âgé de 49 ans, il a arrêté une balle grâce à la graisse de son corps. Et il s'en est pas rendu compte.
Non.
il était bourré. Il était dans un supermarché en train d'acheter de l'alcool. Il était lui-même bourré à ce moment-là. Le supermarché s'est fait braquer. Et il y a une balle qui a été tirée. Donc, du coup, il est quand même un peu stressé, le mec, etc. Ouais. Tu vois, quoi. Et il s'est pas rendu compte qu'il s'est fait tirer dessus.
Il est rentré chez lui, il s'est couché.
Au bout d'un moment, quand même, il s'est dit tiens, dis donc, j'ai du sang. Et du coup, il est allé voir au commissariat. Et il a dit en fait, je me suis fait tirer dessus. Mais vous avez besoin d'aller à l'hôpital ? Bah non, en fait, ça va. Sa graisse a arrêté la balle.
Incroyable.
Mais c'est aussi un super-héros. Parce qu'en fait, le truc.
Il y a plein de super-héros qui arrêtent les balles.
Avec sa graisse.
Ah, c'est pas avec
pareil.
La graisse, ouais.
Avec la graisse, elle s'appelle Big Bertha, aka Ashley Crawford. Moitié mannequin, moitié gros tas.
C'est quoi ça ?
Sans mentir, c'est comme ça que ça a été décrit par un membre de forum. Et en fait, je vais t'expliquer mon chemin de pensée, Vic. À la base, je voulais effectivement raconter des histoires de gens chelous et intervertir avec des vrais super-héros. Mais le problème, c'est que tous les super-héros ont été inventés.
Même suite à des histoires,
c'est
des
ouf,
anecdotes
quoi.
Fédiles.
C'est dingue. Quoi. Bref. J'ai quelque chose d'autre, super-héros, super-chelou, ou les deux, n'a pas dormi depuis 1973.
Les Mohicans,
oui.
Super chelou.
Il y a quelqu'un sur Terre qui n'a pas dormi depuis 1973.
C'est donc vrai. Et pas de nom, pas d'explication, juste tu nous l'as dit.
Non, il s'appelle Taingok. Taingok.
Rien que son nom, c'est super chelou aussi.
Il est thaïlandais, voilà.
Ah bah ouais,
ça c'est musique, maestro.
Il y en a encore beaucoup. Oui, 150.
Il n'en reste plus qu'un.
Ah.
Il peut détacher ses bras quand il le souhaite.
C'est Boycan.
Oui.
Les deux super-héros.
Les deux, non?
Super-héros.
Non, super-héros.
Bah, c'est super chelou aussi, non?
Bah, oui, mais ça n'existe non, pas.
Oui, mais tu peux pas le remettre
si,
après.
Ah si, ça existe.
Ah non, mais, bah, oui, non, mais c'est son vrai bras, pas un bras bionique ou genre de choses. Okay, bah, non, non, c'est un super-héros.
On fait du validisme.
Le monsieur s'appelle le garçon au bras détachable.
C'est voilà. Son nom.
C'est son nom.
Ah, inspiré.
Le garçon au bras détachable, man.
C'est un super-héros d'ici. Et du coup, c'est le quand j'ai vu que tous les super-chelous avaient un équivalent super-héros, et je me suis dit qu'au moins ce super héros il y avait pas d'équivalent super chelou, parce que tu peux pas détacher ton bras et le remettre sans mourir, tu vois quoi.
Ouais, et normalement tu peux pas ne pas dormir sans mourir non plus, mais
oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc j'aurais peut-être
ça,
pu trouver
ça, le mystère reste entier. On en saura. Florian s'est engagé à enquêter, et prochain épisode on va interviewer cet homme. On va le faire venir ici et on va lui donner de tisane nuit douce, et on va voir si on va pas le faire dormir. On va voir.
C'est vrai, c'est vrai. Bah, faut lui payer un billet d'avion, mais franchement, ça vaut le coup quoi. Ben après, il est en Asie, je sais pas si c'est une bonne idée en ce moment. Tout ça,
c'est pire ici. Hein.
C'est pas faux.
C'est pire ici.
Et voilà, voilà. C'est fini. Ben, il y a pas de gagnant, il y a pas de perdant parce que j'ai pas compté les points. Mais, vous
mais,
non plus.
Tu sais qui est gagnant plus, ça, c'est les auditeurs parce qu'ils ont profité de ton quiz.
Et on a passé un bon moment.
Et par contre, les perdants, c'est vraiment nous deux parce que c'était n'importe quoi.
Non, ça va.
Non, c'était très bien. Non, c'était un super quiz, et c'est pas pour rien que t'es le master of quiz.
Et super musique, non?
Oui. Ouais, par contre, la musique, on l'a lancée au moins 4 fois.
Je pense qu'on la relance plus jamais.
Non, on la relance plus jamais.
On va se dire au revoir.
Tu fais la conclusion.
Ouais, est-ce que tu veux, Vic, tu veux ouais. Qu'est-ce que tu veux mettre comme musique pour dire au revoir aux
auditeurs? Je veux mettre la musique de Fifty Shades of Grey.
Très bien.
C'est vraiment la musique ça. De Fifty Shades of Grey.
Ouais. Super. Et le clip de ça, il y a des filles. Enfin, il y a un mec qui chante, le chanteur. Et puis, tout autour de lui, il y a des filles presque nues, mais pas totalement, mais qui ont des scotch collés un peu partout, comme au Crazy Horse, mais aussi sur les fesses, je sais pas pourquoi, c'est comme si elles cachaient leurs tétons, mais sur les fesses.
D'accord.
Et elles bougent leurs fesses en rythme avec la basse. C'est étonnant.
On dirait un accident de voiture dans un magasin de papeterie, quoi, ou un truc genre.
Bon, non, mais c'est étonnant, allez voir le clip.
Alors, dans 3 semaines, on va se retrouver avec un super thème et 3 nouvelles chroniques. Beaucoup d'amour, on va se retrouver sûrement avec des recommandations, on va se retrouver avec vous, on l'espère. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux,
oui.
Twitter, Facebook, et c'est tout.
Pour l'instant,
pas mal, c'est pour déjà l'instant, pas mal. Mais c'est déjà bien. Vous pouvez faire quoi d'autre? Vous pouvez nous laisser des petits commentaires, ouais. Des petits messages d'amour. On répond à tout le monde. Vous pouvez nous laisser des étoiles dans nos cœurs et aussi sur iTunes. C'est encore mieux que dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'il faut leur dire d'autres auditeurs?
Bah, je sais pas. Vous pouvez nous envoyer du courrier, des bonnes pensées, des pensées positives, par exemple, ce genre de choses. Envoyez-nous tout ce que
des
textes aussi, comme on disait au début d'épisode.
Mais
n'hésitez pas à nous envoyer des textes. C'est toujours sympa. On les lira, on les diffusera peut-être pas.
Puis,
on verra bien.
Et puis pensez à dire aux gens que vous aimez que vous les aimez.
Exactement. Ouais, l'amour avant tout.
Ouais, l'amour avant tout. Voilà. Parce que le vrai super héros, c'est ce que ce serait pas l'amour.
Est-ce que ce serait pas vous?
Ah waouh, j'adore cette fin d'épisode. Cet épisode infiniment long. Allez. À dans 3 semaines, les amis. Bisous.
À dans 3 semaines.
Bisous.
Bisous.